L'invité de Denise Dumoulin, avec les œuvres pontificales missionnaires, à la découverte des témoins de la mission d'aujourd'hui.
L'invité de Denise Dumoulin. Aujourd'hui, je vous propose une rediffusion de quelqu'un qui n'avait rien de commun, Elisabeth Bersigel. Elisabeth Bersigel, une femme étonnante, à la vie fort peu banale, fort peu commune, fort peu convenue, un parcours atypique, un tout petit bout de femme, mais une énergie à revendre. Et Elisabeth Bersigel, qui avait nettement franchi les 90 ans, nous a quittés à la fin de l'année dernière, et je vous propose aujourd'hui de la réentendre dans une interview qui a très exactement 3 ans. Elle venait de publier aux éditions du Cerf un très beau livre, « Discerner des signes du temps ». Et ce livre reprenait 4 grands thèmes, Jésus et les femmes, le Christ dans la spiritualité russe, des grandes figures dans l'Église, et puis l'Église et le ministère des femmes, un thème qui lui tenait à cœur. Dans les figures, chose étonnante, il y avait Lev Gillette, un moine là aussi au parcours étonnant, la mère Marie Skoptov, et puis Alexandre Boukarev. C'était à la fois un parcours et une clé de lecture. Et dans son introduction, Père Michel Evdokimov disait que Elisabeth Bersigel était elle aussi, disait-il, notre mère dans l'Église, parce que au-delà des apparences, elle reste d'une extrême jeunesse. Son enthousiasme, sa jeunesse, on va les retrouver. Mais ce qui est émouvant, c'est que lorsqu'elle va nous parler de Lev Gillette, du Père Lev Gillette, Père Michel Evdokimov, quand il lui a porté les derniers sacrements, a trouvé à son chevet un livre ouvert du Père Lev Gillette. Alors, discerner les signes des temps, on retrouve Elisabeth Bersigel telle qu'en elle-même.
Oh, maintenant, je me sens très vieille. j'ai 24 arrière-petits-enfants, donc je suis une très vieille dame.
Mais comment vous faites pour avoir encore ce regard, cette acuité sur les choses, et puis alors surtout cette liberté de pensée et de propos?
C'est vrai que je me sens libre. Et je pense qu'en Église orthodoxe, en fait, on est assez libre. Enfin, je me suis jamais... J'ai toujours osé parler. On ne m'a pas excommuniée. J'ai dit des choses qui ont choqué.
Vous n'en revenez pas.
Et qui ont choqué. Mais enfin, je peux dire que je vis une très grande liberté. Et dans ce sens, justement, je pense que je suis contente d'être une théologienne laïque orthodoxe. Ce qui m'a permis, justement, de m'exprimer avec beaucoup de liberté. On m'a laissé... On n'était pas toujours d'accord avec moi, mais on m'a laissé parler.
Alors, déjà dans votre parcours, Elisabeth Bersigel, ce qui est assez époustouflant, c'est que votre mère était juive, de tendance assez libérale, et puis vous-même, vous avez été baptisée chez les luthériens au départ. Oui. Et puis vous avez même été justement enseignante et pasteur.
Oui, c'est ça. En somme, il y a cette chose paradoxale qu'au fond, on ne sait vraiment pas. En somme, je pense que j'ai été la première...
Vous êtes une synthèse à vous toute seule.
C'est une orthodoxe qui a été la première femme pasteur officielle. Ouais. C'est-à-dire, je crois qu'il y a eu des femmes qui ont exercé un ministère à titre privé pendant la Première Guerre mondiale. Mais en fait, du fait qu'en Alsace, l'Église protestante était une église concordataire, de sorte que, en somme, moi j'ai été nommée officiellement sur mon livret de famille, mon métier au moment de mon mariage, je m'en pasteur auxiliaire. Donc je crois que dans ce domaine, en tant que pasteur officiellement, j'étais la première.
Alors je pense que c'est ça aussi qui vous a donné cette très très grande liberté de ton, d'esprit, et ce regard, on peut vous qualifier de femme totalement libre.
Enfin, je ne sais pas si j'étais totalement libre, mais je me suis sentie assez libre. Et en fait, j'ai connu une orthodoxie qui était en réalité, qui désirait la liberté, qui aspirait. Les premiers, enfin, il y a toute une génération de penseurs religieux orthodoxes qui sont venus en France, qui étaient des hommes et des femmes libres.
dans un grand foisonnement de pensées, et puis il y avait une ébullition à la fois culturelle.
C'est quelque chose qui nous privilégie. Mmh. Il y a en France une tradition de pensée orthodoxe libre, audacieuse. Quand on, en somme, le renouveau patristique, il est parti de Paris. Parce que je me rappelle, j'étais très liée avec Vladimir Lossky.
Oui.
Nous étions assis ensemble à la Sorbonne, écoutant Étienne Gilson. Et c'est vraiment là qu'est née la vocation de Vladimir Lossky. Et je crois que nous avons trouvé justement en France, enfin en France, il y a eu un climat de liberté et de dialogue qui, je crois, n'a pas tellement existé ailleurs. Ce qui fait qu'actuellement, aux États-Unis, on s'intéresse à l'orthodoxie d'esprit, d'expression française.
Alors c'est ce qui est d'ailleurs très étonnant et très intéressant, Elisabeth Bersigel, c'est que ce livre, Discerner les signes du temps, est d'abord paru en langue anglaise.
C'est ça, c'est à l'initiative d'un théologien orthodoxe américain que ce livre, qui m'a demandé est-ce que je peux me donner quelques textes pour vous publier, parce que en somme, lui pense qu'il y a quelque chose de spécifique. Il a publié d'ailleurs d'autres livres, un livre qui vient de paraître, Living Icons, les icônes vivantes, qui est une espèce d'anthologie sur les théologiens orthodoxes, justement de ce début du siècle dans l'entre-deux-guerres et tout de suite après la Deuxième Guerre mondiale. Enfin, il y a là quelque chose de spécifique dans le climat spirituel et œcuménique en France, avec un dialogue à la fois avec le protestantisme et avec l'Église catholique, avec entre théologiens orthodoxes, catholiques et protestants.
Alors, Elisabeth Bersigel, ce livre est intitulé « Discerner les signes du temps ». Je remarque que le temps est au singulier, mais que les signes sont au pluriel.
Oui, enfin...
Pour vous, c'est anecdotique ?
Non, je ne crois pas. Enfin, j'aurais pu mettre un signe des temps, du temps.
Ouais.
Non, je ne pense pas. Enfin,
les signes, il y a quand même, et dans votre ouvrage et dans votre pensée, un foisonnement, une culture qui est à la fois religieuse, philosophique. Vous vous êtes passionné aussi pour tout ce qui avait à voir avec la vie tout court, la psychologie. Je pense que c'est la mère de famille que vous êtes qui vous donne à la fois ce côté
très... J'ai enseigné la psychologie. Hein, c'est
pas... Exactement. Moi,
une femme ne pouvait pas enseigner la théologie de mon
temps.
Donc
vous vous étiez rattrapé sur la psychologie.
J'étais prof de philo, et finalement j'ai fini ma carrière comme spécialiste de pédagogie, voilà tout mêle à tout, enfin bref, mon dernier travail c'est dans un centre de recherche pédagogique.
Dans ce foisonnement, cette richesse de cette pensée venue de Russie, la France, avec ses moins bons mais ses bons côtés, a toujours permis cette ouverture justement et cet accueil.
Paris a été vraiment la capitale de l'intelligentsia russe dans l'entre-deux-guerres. Il y a eu une tradition, et il y a une thèse qui vient de paraître de Antoine Arjakovsky sur les intellectuels russes tout de suite de la première génération. C'était des gens qui étaient ouverts extrêmement et qui en somme aspiraient à des réformes dans l'Église orthodoxe même, et qui avait été très marqué par le concile de 1917, qui était un concile qui aspirait à un progrès dans la fidélité à la tradition, dans un retour créateur à l'authentique tradition, à des changements, à un approfondissement de la foi, et qui devait avoir des répercussions aussi sur l'aspect institutionnel de l'Église. Donc ces gens-là sont venus, des gens comme le père Serge Bulgakov, comme Berdiaev, qui étaient très différents, mais enfin qui tous les deux représentent cela. Et quand à l'époque où j'ai connu personnellement assez bien Berdiaev, les deux, eh bien Berdiaev était en relation avec la revue Esprit, et moi-même j'étais représentante d'Esprit pour l'Est à la France. Ça paraît tout à fait naturel.
Oui.
Justement, il y a donc là toute une rencontre. Il y a une, là, écoutez, aussi quelque chose a fait qu'on sait très peu que la première paroisse orthodoxe de langue française, fondée par le père Lavillé, avait comme petite annexe le studio franco-russe. Il y avait un studio qui était dirigé, animé par le fils de Péguy.
Oui.
Par Marcel Péguy.
Oui.
J'ai très bien connu Marcel Péguy qui venait dans cette paroisse. Donc il y a eu quelque chose de spécifique. Il y a eu donc dans des années, enfin dans l'entre-deux-guerres, grand climat de liberté. Et c'est de là, c'est dans ce climat aussi qu'est né ce renouveau néo-patristique qui doit beaucoup à l'influence aux recherches historiques en France, des hommes comme Gilson qui ont certainement eu une grande influence sur Lossky, sur moi, etc.
Elisabeth Bersigel, la première partie de votre livre, alors, c'est évident, c'est Jésus et les femmes. Et vous soulignez que de Bethléem jusqu'au matin de la résurrection, les femmes sont présentes dans toute la vie terrestre de Jésus. Et ça, entre nous, ça vous plaît bien.
Je pense que c'est un fait, n'est-ce pas, quand on le dit. Alors, Jésus n'a pas prononcé des discours féministes, mais il a eu son attitude à trancher. C'est une époque où, d'une façon générale, la femme était considérée comme intérieure. Mmh. En tout cas, à part, n'est-ce pas, à part, cantonnée dans les travaux domestiques, à la rigueur, etc. On pouvait être très gentil avec elle, mais elle n'avait pas de place dans la vie publique. Elle est à part, un groupe à part. Or, ce qui est très frappant, le Christ s'adresse aux femmes, jamais comme à un groupe spécifique. Mmh. Il s'adresse, comme il s'adresse aux hommes, il appelle tout le monde à la conversion, à cet acte libre, que par excellence est la conversion. Et c'est une femme qui donne. Alors, faudrait parler de Marie, un de mes articles est consacré à Marie. Mais il y a tout l'ensemble des femmes. En somme, combien de femmes ont été là? J'insiste un peu à la suite de France Quéré, qui était mon amie. Jeune homme.
Oui.
Ce fait que c'est une femme, l'onction avant, l'onction de Béthanie, qui était une onction royale, à la fois une onction en vue de la mort, mais en fait aussi une onction royale. C'est une femme qui a voix du Christ pour sa mort rédemptrice. Et d'autre part, enfin, c'est avec des femmes qu'il a eu des dialogues théologiques, la femme de la Samaritaine, c'est à elle qu'il confie le secret du culte en esprit et en vérité. C'est une femme qui, c'est avec la Cananéenne qu'il annonce le caractère universel du message chrétien. Donc, en somme, il ne les a pas juste traités comme des êtres inférieurs. Il a parlé avec chaque femme comme en tant que personne, unique, chacune, la comprenant. Et il n'a pas exalté des vertus spéciales ou critiqué les défauts spéciaux de la femme, mais il leur a parlé comme à des personnes humaines, qui, comme toute personne humaine, est appelée à le suivre.
Et vous dites très joliment, Elisabeth Bersigel, que Jésus ne s'intéresse pas à la femme, mais aux femmes,
chacune considérée comme
un être parfaitement personnel.
C'est une idée, c'est en tant que personne. Ouais. Il rencontre telle et telle, il la nomme par son nom, et il lui parle, il appelle chacune en tant que personne à le suivre.
Alors, ce qui est quand même je trouve très beau pour nous, c'est de se dire qu'aucune femme n'a trahi Jésus.
Oui. Et certainement, lors de la figure de quand Jean et Marie de Magdala et la mère de Dieu sont ensemble à la croix, c'est l'image de l'Église. L'image homme et femme ensemble, participant au sacrifice du Christ, offrant le Christ, communion au sacrifice du Christ.
Alors, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que soulignez bien à propos de Marie, sa mère, à qui vous consacrez quelque chose de particulier, Elisabeth Bersigel, c'est de dire que trop souvent, on a exalté la mère de Dieu aux dépens de ses sœurs, qui seraient considérées comme misérables, et en fait, vous dites que c'est faussé le sens de l'Écriture, et que Jésus voit dans sa mère la figure et le prototype du vrai disciple, de ceux qui écoutent la parole de Dieu,
il y a justement, quand bienheureux qui est le saint qui était allaité, etc. Alors il dit, bienheureux ceux qui me...
Écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique.
Mais sa mère, ce n'est pas du tout pour abaisser sa mère.
Non, au contraire.
C'est elle qui a entendu la parole de Dieu et qui l'a suivie.
Vous citez d'ailleurs le père Paul Evdokimov et puis le père Thomas Hopko, parce que vous dites qu'il y a eu toute une façon dont on a parlé du féminin de façon spécifique.
Les orthodoxes ont été mis, le problème de la femme a surgi en Occident à la suite d'une mutation culturelle profonde.
Oui.
Que nous avons connu, que nous avons vécu, et qui a beaucoup moins touché, en tout cas pendant le temps de la guerre froide, l'Est de l'Europe et d'une façon générale l'orthodoxie. Alors c'est dans le cadre du mouvement œcuménique que les orthodoxes ont rencontré le problème de la place de la femme dans l'Église. Et alors quelqu'un comme Evdokimov, que j'ai très bien connu, a voulu répondre. Alors il a pensé rendre juste pour commencer, les orthodoxes ont refusé toute idée qu'il y avait une place spéciale de la femme, et en particulier le problème de l'ordination de la femme nous a tout à fait surpris, étonnés, ils ont répondu de manière assez maladroite. Et c'est là qu'a intervenu Paul Evdokimov,
ouais,
qui a voulu justifier le fait que les femmes ne soient pas ordonnées, ouais, par le fait que l'homme serait en quelque sorte à l'image du Christ, et la femme serait spécialement, il y aura un lien spécifique entre la femme et l'Esprit Saint. Mais je, personnellement, je suis tout à fait, alors que j'ai beaucoup aimé que nous avons été de grands amis, je pense que là, il y a quelque chose de faux. Nous sommes hommes et femmes baptisés au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Il n'y a pas de relation. Et nous sommes tous appelés à un christianisme, une foi personnelle dans la communion au Christ par l'Esprit Saint. On ne peut pas dire ça, c'est tout à fait, il est artificiel, qui en somme a été suggéré à Evdokimov et au Père Opko par le fait que dans les langues sémitiques, le terme esprit est féminin. Donc là, s'il y avait là quelque chose, mais enfin, en faire une espèce de théorie, à mon avis, ça ne tient pas debout théologiquement.
On va prendre une première pause musicale, Elisabeth Bersigel. Je rappelle le titre de votre livre, Discerner les signes du temps. C'est aux éditions du CERF. Ça vient après toute votre réflexion sur le lieu du cœur, sur le ministère de la femme dans l'Église, sur votre très beau livre sur l'Ève Gillette, un moine de l'Église d'Orient. Discerner les signes du temps, donc aux éditions du CERF, dans la collection Théologie, au pluriel, qui est vendue 24 euros. Une pause et on se retrouve.
Radio Notre-Dame.
Elisabeth Bersigel, vous êtes théologienne orthodoxe, vous avez un parcours tout à fait atypique parce que vous avez été à la fois proche du judaïsme par votre maman, vous avez été aussi pasteur de l'église luthérienne pendant 2 ans en Alsace, et puis vous êtes mariée, vous êtes devenue mère de famille, aujourd'hui 24 petits-enfants, et évidemment dans l'église orthodoxe, et puis en tant que mère de famille, eh bien vous ne pouviez plus être pasteur. Mais on a l'impression que ce parcours, pour vous, ça a été un très très grand enrichissement. Et tout à l'heure, vous évoquiez notre ami France Quéré. Je crois qu'il y avait une très grande connivence, je dirais presque de mère-fille théologienne, non ?
Si, nous sommes très bien connus, nous étions très proches, c'est évident, c'est quelqu'un. Et je dirais que c'est une des femmes qui ont le mieux compris les pères de l'Église. Parce qu'on dit, la femme et les pères de l'Église, c'est extrêmement... C'est très très profond, très juste, très nuancé. C'est quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié, mmh. Je suis très proche.
Puis un être unique, France Quéré.
Oui.
Oui. Votre regard justement sur le Christ, vous évoquez le Christ dans la littérature, ça on ne peut pas ne pas en dire un mot parce qu'entre Gogol et Tolstoï, il y a de très très belles figures d'approche du Christ dans la littérature russe. Il y a de fortes intuitions qui sont presque théologiques déjà.
Oui, il n'y a aucun doute que, enfin, évidemment ce n'était pas des théologiens,
non.
Mais c'était des hommes... Enfin, il y a tout un climat spirituel, et Tolstoï a été excommunié par l'Église orthodoxe à certains.
Vous en souffrez de ça?
Pardon?
Vous en souffrez ça, de ça?
Enfin, c'est passé maintenant. Le jugement appartient à Dieu.
Voilà.
Enfin, c'est évident que sa théologie, il a d'abord évolué dans sa vie. Il y avait une espèce sa théologie est tout à fait douteuse, mais au fond de lui-même, c'était un homme qui avait, comme d'ailleurs Tolstoï, comme Dostoïevski, ont été frappés par la figure du Christ humble. Alors je dirais ceci, c'est pas, souvent on pense à l'orthodoxie, ce sont le Christ très majestueux, le Christ
En majesté, puis en majesté, en royauté et en gloire.
Or, il n'y a aucun
doute qu'une
spécificité de la spiritualité russe, pas la seule, mais enfin, c'est justement cet amour, pour le Christ humble, le Christ kénotique, on dit dans un langage un peu plus théologique. Ça m'a beaucoup frappé quand j'ai voyagé en Russie, que j'ai vu là des très anciennes sculptures en bois qui représentent le Christ courbé, en quelque sorte, sous le poids du péché du monde qu'il porte. Et je cite cette phrase, n'est-ce pas, du pauvre diacre qui était le père d'un grand théologien de Moura, qui représente le Christ comme celui qui soulève le fardeau du monde, le fardeau de l'humanité, le Christ, c'est comme si tu voyais dans la rue quelqu'un qui succombe sur un fardeau trop lourd pour lui, et tu te précipites, c'est comme ça, c'est de cette manière que le Fils de Dieu a soulevé le fardeau du monde, le fardeau de l'humanité. Alors je crois que ceci, quel que soit, vous savez, je ne veux pas, peut-être ai-je trop idéalisé, la Russie, la piété russe, je l'ai connue à travers des personnalités peut-être particulièrement inspirantes. J'ai peut-être un peu idéalisé, mais je crois que ça existe. Et ce fil traverse la littérature russe et même des gens qui officiellement donc étaient en opposition avec l'Église, comme c'est le cas de Tolstoï, ils étaient quand même, ils avaient imprimé dans leur cœur, dans leur âme, cette image du Christ qui porte le fardeau de l'homme.
Je pense que Elisabeth Bersigel, ce qui vous touche le plus, vous justement, dans la vision du Christ, c'est pas tant parce que très facilement, je dirais, ceux qui connaissent mal l'orthodoxie ont toujours cette vision d'un Dieu un peu tout puissant, omniscient, oui. Et puis tout en gloire et en majesté. Or, en fait, vous, on a le sentiment quand même que c'est ce Christ là qui vous touche le plus.
Oui, c'est certainement. Et je dirais que c'est ceci qui m'a attiré à l'orthodoxie, c'est à travers... Alors, je ne suis pas seule d'ailleurs, je crois que quelqu'un comme le père Lev Gillet a été très attiré par cela.
Vous étiez très proche du père Lev Gillet.
Oui, très. J'ai une correspondance d'un demi-siècle. Nous avons très rarement habité dans la même ville, nous avons échangé beaucoup de lettres.
Est-ce que justement on est marqué, il y a ce que je peux qualifier de connivence spirituelle?
Oui, peut-être.
Oui. Autre regard, donc, les figures. Alors, Mère Marie Skopstov, vous étiez particulièrement faite pour la comprendre, parce que c'est quelqu'un qui a porté à la fois toute la, je dirais, toute la beauté, toute la, ce qui aurait pu être la gloire humaine du monde, et puis qui en même temps a connu l'épreuve la plus grande et qui est morte en déportation.
Oui.
Quel parcours!
J'ai eu la chance, la grâce de la connaître d'assez près, et même d'être proche d'elle pendant la guerre, parce que c'est à elle que je me suis adressée pour sauver. Elle a sauvé des enfants qui étaient au Veldiv, qui avaient été arrêtés. Un ami juif est venu me trouver, me disant est-ce qu'on peut faire quelque chose. J'ai pensé que je téléphonais à la mère Marie, et elle a pu sauver l'enfant. Et c'est quelqu'un que j'ai donc bien connu. Elle représentait elle était une révolutionnaire. Je pense que c'est une vraie. Elle avait été socialiste révolutionnaire.
Ouais. En même temps, elle avait été très proche de la cour impériale. Enfin, elle avait tout connu dans sa vie.
Oui, c'est-à-dire qu'elle appartenait à l'aristocratie russe. mais en même temps, donc, il y avait la chose représente ça souvent. Il y avait tout un courant à l'intérieur, justement, cette aristocratie. Il ne faut pas oublier que ce qu'on appelle l'âge d'argent russe a précédé juste la révolution. Il y avait là un courant de pensée, à la fois de recherche spirituelle, et en même temps de recherche de la liberté.
Mais Elisabeth Bersigel, on se dit que c'est un peu triste, parce que si ce courant-là et des êtres comme Mère Marie avaient pu faire passer leur vision des choses et du monde, là, il n'y aurait pas eu la révolution
communiste.
C'est ça,
il n'y aurait pas eu. C'est d'ailleurs, alors, ça c'est le mystère, n'est-ce pas, voilà. Enfin, n'est-ce pas, vous savez très bien, il y a eu le coup d'État de Lénine, en somme, qui a fait triompher ceux qu'on appelait les bolcheviques, ce qui veut dire majoritaires, n'étaient pas en réalité majoritaires, mais ils ont réussi un coup d'État.
Les coups d'État, c'est rarement majoritaire.
C'est ça. Alors, c'est eux qui ont, je veux dire que, si vous voulez, la famille de mon mari a beaucoup souffert. On l'a retrouvée dernièrement, les dernières lettres du frère de mon mari et du camp de concentration. On a éliminé une grande partie de l'intelligentsia russe, et qui était elle n'était pas parfaite, mais il y avait là une recherche spirituelle, une aspiration à la création d'un État qui respecte les droits de l'homme. Or, si tout ça a été ruiné, et maintenant, la Russie cherche à retrouver. Et c'est, en somme, actuellement, il y a une espèce de recherche de ses racines et qui montre très bien le livre d'Arjakovsky que je viens de nommer.
Oui. Autre personnage, donc, que vous nous faites revivre, Elisabeth Bersigel, c'est Alexandre Boukareff, celui dont, justement, le grand philosophe Nicolas Berdiev disait, c'est le grand théologien russe.
Oui, c'était le grand théologien. Florensky, qu'on connaît un peu mieux, c'est lui qui a publié ses lettres. En fait, il a eu une décennie tout à fait tragique. Et alors maintenant, un livre vient de paraître aux États-Unis, on dit la théologie orthodoxe moderne. Et alors là, Boukareff est qualifié comme le premier théologien orthodoxe moderne. C'est-à-dire un homme qui a senti que la modernité, justement, c'était le signe du temps, qu'il y avait, que l'histoire a un sens, qu'à travers, justement, ce signe du temps, Dieu appelle les chrétiens à un approfondissement de leur foi. Alors, il pensait que lui-même était un fils de diacre, il n'était pas de la classe aristocratique, mais il avait une culture philosophique et théologique. Et il pensait que l'Église devait répondre aux questions du monde moderne.
Oui.
Alors, par exemple, c'était l'époque, il a vécu au milieu du 19e siècle, c'est l'époque de la libération des serfs. Alors, il dit que l'Église doit faire de la libération des serfs son affaire. Il est vrai que ceci, d'ailleurs, était le fait, il n'est pas seul de le penser cela. Mais en fait, il y avait toutes sortes de choses. Et alors, par exemple, aussi, alors tout à fait quelque chose de différent, c'est quelqu'un qui fallait que la question des relations de l'homme et de la femme dans le mariage avait un sens très profond, que le mystère de l'amour humain est un mystère qui ouvre sur la connaissance de Dieu, que le mariage était une voie spirituelle, comme est le célibat consacré. Il y a la voie du célibat consacré, mais il y a la voie du mariage qui, elle aussi, est une voie spirituelle d'égale valeur. Et lui-même, donc, à un moment donné, il était moine, il enseigné la théologie, il a demandé sa réduction à l'état laïque, qui lui a été accordée. Mais qui, en même temps, aboutissait à une espèce de déchéance du point de vue de tous ses droits civiques. Et des fonds morts dans la pauvreté. Mais en même temps, il n'y a aucun doute qu'il a eu un rayonnement. Et on peut dire qu'une partie de la théologie orthodoxe moderne du début du XXe siècle est sortie de Boukareff. C'est le cas, en tout cas, pour Evdokimov.
Oui.
C'est pas Evdokimov que j'ai connu Boukareff.
Et oui, et vous avez une très très belle comparaison, Elisabeth Bersigel, justement à propos de Boukareff, vous dites qu'il incarne très exactement avant la lettre le personnage dans le roman de Dostoïevski, Les Frères Karamazov, d'Alyosha, à qui Zosime disait « Tu quitteras ces murs, tu vivras dans le monde comme un religieux ».
Oui, c'est ça.
Et c'est alors, quelque chose.
Alors, justement, on peut se poser la question. Il semblerait que la personnalité de Boerhaave est à l'origine de justement cette figure d'Alyosha, un théologien, un chercheur allemand, qui est un spécialiste de la théologie russe, qui parle très bien le russe. Lui montre très bien que c'est, en somme, le cas de Boerhaave a influencé Dostoïevski pour la création du personnage d'Alyosha. Aller dans le monde, pour dans le monde, vivre en Christ.
Oui.
Et que ceci était une, en quelque sorte, c'était un des signes du temps. C'était une des choses qui était demandée aux chrétiens, aller dans le monde, ne pas il est évident qu'il y a toute une tradition ascétique, aller au désert.
Comme Serge de Radonèche aussi, vous évoquez, c'est un parcours qui est tout aussi...
Il a tout de même vécu comme un solitaire, et comme ça, c'est Séraphin de Sarov.
Ouais.
Enfin, le fait est que, en tout cas, ils ont tout de même toujours cherché l'autre relation avec le monde, qu'il a créé un monastère, etc.
Ouais.
Comme Séraphin de Sarov, à la fin de sa vie, on se fait énormément de gens. Mais enfin, là, il y a quelque chose de spécial. Cette idée que c'est de l'intérieur qu'il faut christifier, ecclésifier la culture moderne. Il ne faut pas la combattre comme un ennemi. Il faut entrer dans cette culture et de l'intérieur essayer de la voir ce qu'il y a de les racines spirituelles de cette culture, la recherche de la vérité, la recherche de la justice. Que ceci est finalement quelque chose, un appel adressé par le Christ aux chrétiens maintenant. Actuellement, il y a une espèce de kairos, c'est bien kairos, une occasion donnée. Enfin, il y a un nouvel appel aux chrétiens qui est entré dans ce monde qui leur paraît étranger, mais pour de l'intérieur, transfigurer la modernité de l'intérieur et non pas la combattre.
Ça, c'est prodigieux, parce qu'au fond, ces idées, elles ont commencé à mordre au début du XXe siècle, et aujourd'hui, c'est parfaitement d'actualité.
Oui, c'est ça. Et alors, souvent, on ignore de l'orthodoxie, parce que le mouvement des étudiants chrétiens russes, la SER, était tout à fait dans cet esprit.
Oui, tout à fait. On en parlera d'ailleurs avec le successeur. Autre thème que vous abordez, Elisabeth Bersigel, dans une troisième partie de ce livre, c'est l'Église. Alors, avec une réflexion sur la formation justement théologique orthodoxe au XXIe siècle, quelles sont les tâches primordiales dans cette formation ?
J'ai parlé de ce exposé que j'ai fait. Je l'ai fait à l'occasion de l'ouverture d'une section orthodoxe à l'université de Cambridge.
Mm-hmm.
Alors, donc, ceci m'a amené à parler de ce fait important et tellement essentiel, cette rencontre de l'orthodoxie avec le monde occidental moderne dû à l'émigration russe.
Mm-hmm.
Il y a depuis des siècles, maintenant, les orthodoxes sont en Occident. Ils ne sont pas en Occident. Ils sont vraiment intégrés à la culture occidentale totalement. Ils sont à l'intérieur occidentaux, ils sont culturellement. Et alors constitue un appel pour l'Église, justement, à essayer de répondre aux questions posées par cette culture occidentale moderne. Alors je crois que là, il y a quelque chose où, d'ailleurs, justement, en France, nous sommes privilégiés. Parce qu'il y a nous en sommes aux arrière-petits-enfants. Moi, quand vous avez parlé ça n'a pas d'importance. En fait, il y a toute une intégration.
Ouais.
Et alors, justement, ici, donc il y a un effort qui est peut-être trop timide, mais enfin, qui existe, justement, un homme comme Olivier Clément est tout à fait représentatif de cela, de répondre de l'intérieur de l'orthodoxie aux questions posées par le monde moderne, par la modernité.
Ouais.
Non pas la combattre, mais la comprendre, intérioriser, telle en particulier la question concernant la place des femmes dans l'Église. Il y a une mutation. Et...
On va y revenir parce que c'est un point important. Elisabeth Bersigel, je rappelle donc le titre de ce livre qui a d'abord, je le précise, vous évoquiez Cambridge, vous évoquiez aussi l'importance aux États-Unis. Je pense aussi qu'il y a toute la suite de personnalités comme Alexandre Schmemann. C'est aux éditions du CERF, Discerner les signes du temps. C'est un livre qui est vendu 24 € et qui, je dirais, récapitule admirablement votre pensée. C'est une suite
je pas, de... Je sur des cailloux. Semer le long de la route.
Oui, c'était effectivement différents thèmes. En fait, ce sont des interventions, mais qui sont très écrites. C'est pas des cassettes décryptées, hein, et qui reprennent au fond les grands thèmes qui sont votre préoccupation. Et là où vous avez à dire, discerner les signes du temps. Elisabeth Bersigel aux éditions du CERF.
Radio Notre-Dame.
Elisabeth Bersigel, Discerner les signes du temps, c'est le titre de ce livre publié aux éditions du CERF qui reprend certains de vos grands thèmes. Tout à l'heure, on évoquait justement cette vision du Christ, on évoquait aussi ce rapport de Jésus avec les femmes et ces rencontres très très personnelles. Alors il y a toute une partie qui touche à la Bible, à la tradition, au sacrement, et puis vous posez évidemment les questions qui sur lesquelles vous êtes une vraie militante, de l'ordination des femmes, on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, et ça c'est une réflexion qui que vous avez toujours menée, vous vous êtes quelquefois affrontée avec certains théologiens hommes.
Oui, mais j'ai été amenée à cela parce que un événement qui a été assez déterminant dans ma vie, c'est que j'étais appelée par le Conseil œcuménique des Églises à introduire la première conférence mondiale des femmes orthodoxes. Ouais. C'est d'ailleurs quelque chose de très modeste, en 1976 à Agapia. Et pour la première fois, c'est le Conseil œcuménique des Églises qui justement confrontait à ce problème qui est devenu un problème œcuménique, justement la question de l'ordination des femmes, a donc amené, avec la collaboration d'ailleurs très bonne, des églises orthodoxes, a organisé la première rencontre internationale de femmes orthodoxes. J'étais projetée là, j'étais tout à fait étonnée. Je connaissais vaguement je connaissais assez bien le Conseil œcuménique des églises, mais j'avais jamais été amenée à collaborer. Alors là, je ne sais pas comment ça se fait, enfin, on m'a fait l'honneur de m'inviter, d'introduire cette conférence, et c'est là pour la première fois que les femmes orthodoxes se sont rencontrées, et qu'il y a eu un vrai dialogue. Entre elles et avec la hiérarchie, parce que cette conférence était animée par deux évêques qui étaient là, l'un un roumain, l'autre un grec. Et donc, tout est parti de là.
Toutes ces rencontres que vous avez faites, aussi bien en France qu'à l'étranger, pour vous, on a l'impression que c'est aussi ce qui vous a tissé, Elisabeth Bersigel, parce que c'est les événements, parfois, qui vous ont amené, justement, à réfléchir sur certains thèmes comme celui-là.
Enfin, là, j'étais en somme... je n'étais pas spéciale, enfin, si vous voulez, j'étais peut-être féministe sans le savoir.
Mais ça a été le détonateur pour vous, c'est les circonstances, c'est les événements, c'est pas vous qui l'avez recherché.
Non, je n'ai pas cherché, voilà, c'est ça. Je me rappelle très très bien, quand j'ai reçu cette invitation, j'étais tout à fait étonnée, je ne savais pas que faire, enfin, comment répondre. Bon, je pense qu'à cette époque, il y avait très peu de femmes ayant une formation théologique parmi les orthodoxes. Il y avait des femmes qui réfléchissaient, mais très peu ayant une formation théologique. Donc, ceci a amené. Mais, enfin, c'est tout ce dialogue auquel j'ai participé qui était souvent, malheureusement, un dialogue de sourds. Je pense qu'il y a une certaine vocation ici des femmes orthodoxes occidentales d'être des jeteuses de pont entre l'orthodoxie traditionnelle et cette orthodoxie qui est maintenant totalement inculturée en Occident et où les questions se posent. Il y a un livre qui vient de paraître, L'Église et les femmes, de Ksenia Yurieff. Vous serez très étonnés de voir. Il y a maintenant, je ne suis pas du tout seule. Nous avons eu dernièrement le congrès de la fraternité orthodoxe en Europe occidentale. Certainement, un des ateliers qui ont le mieux fonctionné, c'est l'atelier femmes et hommes dans l'Église.
Autre réflexion qui vous résume assez bien, Elisabeth Bersigel, vous soulignez bien que votre point de vue est celui d'une théologienne orthodoxe, mais dites-vous qui tente de rendre compte de sa foi, de la foi de l'Église à laquelle elle appartient, tout en tentant aussi de répondre et aux questions posées par ses frères et sœurs catholiques et protestants, et à ces défis de la modernité auxquels nous sommes tous confrontés. En fait, là aussi, vous montrez bien qu'on ne peut pas être chrétien dans sa petite sphère tout seul.
Non, c'est ça. Justement, il y a à faire un travail commun. C'est ça, d'ailleurs. Je dois beaucoup, justement, à ces contacts au sein du Conseil œcuménique des Églises.
Vous les aimez beaucoup, en fait, ces contacts?
Je les aime beaucoup, oui. Certainement, pour moi, l'œcuménisme a joué un très grand rôle dans ma vie. J'ai appartenu à un mouvement de jeunesse qui a joué d'ailleurs ce qu'on appelle la FUAS, la Fédération universelle des associations chrétiennes d'étudiants, qui a joué un rôle extrêmement moteur dans les débuts du mouvement œcuménique. Et notre devise, c'était que tout soit un. Et j'ai toujours travaillé et essayé d'agir en communion avec des catholiques et des protestants. Et encore maintenant, mais Vous avez parlé de France Kéré, mais c'est une parmi d'autres.
Oui, je sais, oui mais il y avait quand même un lien très personnel, toutes les deux.
Enfin, par exemple, demain, je vais recevoir, on m'a annoncé ça, une carmélite qui est la fondatrice d'avoir un petit carmel de rite oriental en Bourgogne. Saint-Edmond-Bar, et puis qui a fondé un petit monastère en Roumanie. Et qui, je suis en relation très profonde avec ces carmélites. Je me sens en relation absolument fraternelle, ancestrale avec elles. Et je crois que là, ils ont un grand travail à faire ensemble.
Oui.
Et nous chrétiens, qui finalement catholiques et orthodoxes sont les deux des églises, l'église catholique et l'église orthodoxe sont les églises traditionnelles. Nous devons réfléchir ensemble comment répondre aux interrogations du monde contemporain. Je crois que c'est un travail à faire ensemble.
Autre grande interrogation tellement fragile, c'est la paix dans le monde. Les églises orthodoxes ont beaucoup travaillé aussi là-dessus.
Enfin, beaucoup travaillé. On accuse très souvent les orthodoxes d'être justement contre, d'avoir maintenant il y a la guerre en Tchétchénie, il y a eu le problème du Kosovo, il n'y a aucun doute que...
Serbes et croates, mais c'est pas simple en fait, c'est beaucoup plus compliqué que les religions.
C'est compliqué, c'est-à-dire en ce qui concerne la Serbie et le Kosovo, on n'a pas compris combien le problème était complexe. Les Serbes ont beaucoup souffert. Alors ceci n'excuse pas, comme je l'ai écrit, ceci n'excuse pas le mal qu'ils ont fait à d'autres. Mais il faut comprendre, par exemple, le Kosovo était une région, c'était un peu comme l'Alsace-Lorraine pour la France. C'est un pays qui avait une signification, c'est un lieu de mémoire. Justement, on appelle ça un lieu de mémoire. Le Kosovo était un lieu de mémoire pour les Serbes. Alors, bon, les circonstances ont fait que les Albanais sont venus là. Donc, c'est très, très mauvais. Maintenant, il faut essayer de dépasser toute cette utilisation de la religion pour... En somme, on s'est servi de la religion pour des fins qui sont des fins politiques. Mais en même temps, il faut comprendre, enfin, je crois qu'on a uniquement accusé les Serbes, alors que certainement ils ne sont pas... Maintenant, on sait très bien qu'actuellement, dans la situation actuelle, ce sont les Serbes qui souffrent. Je ne sais pas, j'ai des nouvelles de là-bas. Eh bien, les églises orthodoxes sont détruites. Et les Serbes qui vivent dans certaines régions se sont très mis à l'écart. Enfin, malheureusement, l'homme est un loup pour l'homme. Et malheureusement, on se sert souvent de la religion pour justifier le mal qu'on fait aux autres, pour essayer de justement le mal, les guerres, justifier les guerres par la religion.
Alors. Mais vous soulignez que l'Église orthodoxe n'a jamais lancé de croisade.
Non, elle n'a jamais lancé de croisade, elle n'a jamais considéré la guerre sainte.
Oui. Autre thème que vous abordez aussi justement, Elisabeth Bersigel dans cet ouvrage, c'est toute la quatrième partie. Tout à l'heure, on évoquait déjà un peu les femmes et le sacerdoce, mais pour vous, c'est en même temps une occasion de revenir sur toute la, je dirais, les mentalités actuelles dans l'Église et dans les églises. À travers ce regard justement sur la femme et le sacerdoce, et vous, il y a quand même un point commun au fond là-dessus entre catholiques et orthodoxes.
Oui, en fait, traditionnellement, ni l'Église catholique ni l'Église orthodoxe n'ont ordonné des femmes. Alors, il faut savoir est-ce que c'est pour des raisons d'ordre théologique, spirituel, ou est-ce que c'est parce que ça se situe dans un certain contexte culturel. Là, j'ai tout un regard sur l'histoire même de l'Église. Il est évident que cette tendance s'est installée assez vite, mais pas dans une société où, d'une façon générale, la femme était considérée comme soumise à l'homme. Ben, il n'y a aucun doute, c'était des églises androcentriques, comme on dit maintenant. C'est-à-dire que l'homme est au centre et que la femme est là pour l'homme. Alors, il y a une espèce de patriarcalisme doux, où les pères de l'église ont dit il faut pas tyranniser les femmes. Mais enfin, l'essentiel est tout de même que le christianisme a toujours baptisé et chrismé les femmes. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, il y a un peuple sacerdotal. Ce peuple, de ce peuple sacerdotal font partie les femmes. Et elles sont chrismées dans les dons de l'Esprit Saint. Comme, justement, c'est pour ça que je trouve que cette histoire que l'homme est plus proche du Christ et la femme plus proche de l'Esprit Saint, ça n'a aucun sens. Parce que nous sommes tous appelés à communier au Christ dans l'Esprit Saint. Et nous sommes tous ensemble, nous formons tous ensemble ce peuple sacerdotal, ce sacerdoce royal. Et à l'intérieur de ce sacerdoce royal, il y a des fonctions différentes. Alors, pendant très longtemps, on pensait qu'une femme ne pouvait pas exercer les fonctions qui impliquaient une certaine autorité, c'est-à-dire le droit de commander, le pouvoir de commander. Donc, on l'a exclu de fonctions qui étaient celles qui étaient le commande, qui impliquaient le droit de commander, le droit d'ordonner. Mais maintenant, les choses ont... Ceci s'explique en partie d'ailleurs par la situation réelle, par les conditions réelles. Les femmes étaient prises par les maternités. Elles avaient un très grand nombre d'enfants. Elles mouraient très souvent. La mortalité des femmes était très forte. Elles avaient beaucoup d'enfants. Elles n'avaient pas accès à l'instruction. Donc ça peut s'expliquer. Donc, mais en même temps, d'abord le Christ lui-même, son attitude, et je dirais aussi la réflexion théologique chrétienne, a amené à cette idée de personne. La méditation trinitaire a fait surgir cette idée révolutionnaire que l'homme est une personne, que l'être humain est une personne. C'est-à-dire qu'il ne se définit pas par sa nationalité, par son sexe, mais qu'il est cette chose mystérieuse qu'est une personne, un mystère ineffable. On ne peut pas définir la personne. Et la femme, comme l'homme, ce sont des personnes. Et Dieu donne les dons du Saint-Esprit ne sont pas liés à une nationalité, à un sexe, à un rang social, ce sont des dons gratuits de Dieu. Alors, je crois que là, il y a un effort de réflexion à faire, en même temps, en n'étant pas, je dirais que ce qui donne une certaine sérénité aux femmes orthodoxes, c'est que, enfin, en tout cas, dans notre liturgie, nous avons le sentiment de participer pleinement à la liturgie en tant que faisant partie justement de ce sacerdoce royal. Le moment le plus élevé, le sommet de la liturgie, c'est l'épiclèse. On appelle l'Esprit Saint, le don de l'Esprit, on implore le Père d'envoyer son Esprit Saint sur nous. C'est-à-dire tous ceux-là qui sont là. Et c'est nous, en somme, c'est nous qui offrons les dons. Nous t'offrons ce qui est à toi, de ce qui est à toi, pour toutes et pour tous. Et ceci est l'acte commun de toute la communauté. Et je pense que... Alors, en fait, bien sûr, nous sommes actuellement dans une culture où les femmes ont montré qu'elles avaient les mêmes dons intellectuels. Elles peuvent avoir exactement les mêmes dons intellectuels. La force physique joue moins de rôle. Il y a aussi ce fait que pendant longtemps, la force physique jouait un rôle essentiel. Dans notre civilisation, dans notre culture, la force physique joue beaucoup moins de rôle, finalement. En ce sens, d'ailleurs, les Grecs ont joué un rôle important en montrant l'importance de l'intellect. Alors, les femmes, ont toutes sortes de fonctions, les remplissent quelquefois mal, mais quelquefois bien. Et en tout cas, ce n'est pas le sexe qui est important. Alors, je crois qu'il y a là matière à réflexion, en admettant d'ailleurs que selon les milieux culturels, les choses se passent différemment. Je ne sais pas, je ne suis pas axée sur... Il faut absolument que l'Église ordonne absolument les femmes, mais qu'elle admettre que c'est une question en grande partie culturelle. Et je dirais que je cite là ce dialogue qui a lieu et eu lieu récemment entre au plus haut niveau entre l'Église orthodoxe, les théologiens de l'Église orthodoxe et aujourd'hui ce qu'on appelle les vieux catholiques. Et je trouve que c'est un excellent théologie parce que c'était des bons théologiens. Et en somme, l'idée essentielle, c'est que le Christ a assumé toute la nature humaine. Parce que sinon, les femmes ne pourraient pas être sauvées. Nous ne sommes sauvées que dans la mesure où nous sommes assumés par le Christ. Or, aucun, d'ailleurs, personne ne dira qu'une femme ne peut pas être sauvée. Donc, nous avons tous revêtu le Christ. Vous tous, qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Ceci concerne évidemment le baptême, mais c'est essentiel, c'est le fondement. Nous faisons tous partie de ce peuple qui a été baptisé en Christ. Nous faisons tous partie du sacerdoce. Nous participons tous au sacerdoce royal de tous les baptisés. Alors, bon, après cela, bon, il y a des fonctions différentes, et dans des sociétés différentes, avec des sensibilités, des histoires différentes, on peut admettre, actuellement, je dirais que l'Église orthodoxe ne peut pas ordonner les femmes, probablement parce que ça créerait des schismes, etc. Mais, par exemple, je pense qu'il faut absolument qu'elle ordonne des femmes au diaconat.